Jean-Raphaël Niquez, proviseur au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Digne-les-Bains, merci de votre présence. On va Bonjour. Parler évidemment de la rentrée scolaire et puis faire peut-être un petit bilan de l'année écoulée.
Très bien. L'année scolaire dernière au lycée Pierre-Gilles de Gênes a été une année scolaire riche à plusieurs égards. D'abord du fait des nombreux événements qu'on a menés dans l'établissement et puis aussi parce qu'on a un projet d'établissement qui vit depuis plusieurs années maintenant, qui met en avant beaucoup de points qui sont importants pour nos enfants, à commencer par la réussite au lycée. Et on a eu la chance cette année de voir une vraie concrétisation par les résultats au baccalauréat des efforts qui ont été faits par l'ensemble des équipes de l'établissement. On est sur tout baccalauréat confondu à plus de 95% de réussite. On a seulement 4 élèves qui n'ont pas eu leur baccalauréat dans l'établissement, dont un qui ne s'est pas présenté aux épreuves, pour le coup, dont on savait qu'il ne l'aurait pas avant même les premiers écrits. Donc on était évidemment très très heureux de conclure cette année scolaire dernière par ces excellents résultats, en plus de toutes les actions qu'on a pu mener sur la lutte contre le harcèlement, l'égalité filles-garçons, les activités culturelles, etc., etc.
Oui, c'est un lycée non seulement donc, qui a de bonnes réussites au niveau des examens, mais aussi où il se passe beaucoup d'animations, de journées, on peut dire, exceptionnelles.
Oui, je crois qu'on peut le dire. Le concours d'éloquence qu'on a fait en partenariat avec le lycée Alexandra Davinel, c'était une première et c'était une réussite, je crois. Saluée en tout cas comme telle par la quasi-totalité de nos interlocuteurs. Le festival Pierre-Gilles de Gênes qu'on a fait au mois de mai, ce sont évidemment des événements marquants. C'est évidemment pas le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, ce sont les apprentissages, c'est l'éducation de nos enfants aussi. Mais dans cette partie éducation, effectivement, on s'attache toujours à avoir des événements phares. On a eu aussi l'avenue d'Antoinette Chahine. Bon, on en a eu plusieurs. Hein,
repréciser qui était Antoinette Chahine, qui est Antoinette Chahine, une vraie personnalité qui lutte contre la peine de mort depuis son incroyable histoire.
Effectivement, c'est quelqu'un qui, selon l'expression, gagne vraiment à être connu. Ça a été une rencontre extrêmement forte pour nos élèves d'avoir un exposé par Antoinette Chahine, qui est libanaise et qui, dans son pays, a été, alors, il y a de nombreuses années maintenant, parce qu'elle est de notre génération, elle a une cinquantaine d'années, un peu plus, qui a été emprisonnée, torturée, parce que son frère était un militant de l'opposition du régime de l'époque, qui a été condamné à mort et qui finalement a pu obtenir une grâce, notamment par l'intervention des journalistes et d'Amnesty International. Et c'est grâce à Amnesty International qu'on a pu avoir l'intervention d'Antoine Chahine dans l'établissement l'année dernière, qui a été, je le répète, un événement majeur et marquant, extrêmement, extrêmement fort pour tous les élèves qui ont assisté à cette conférence. Un personnage absolument extraordinaire.
Oui, qui depuis sa libération, milite contre la peine de mort.
Elle milite à la fois contre la peine de mort et pour le droit des femmes, exactement. Voilà. Exactement. Et ces deux combats qui ont toute leur place dans l'éducation de nos enfants, évidemment.
Oui, parce que vous avez aussi une antenne jeune, Amnesty International, au sein du lycée depuis quelques années déjà.
Oui. C'est d'ailleurs une grande joie chaque année d'avoir des enfants qui s'emparent de ces sujets internationaux, qui concernent aussi bien le droit des femmes, la faim dans le monde, les souffrances, les tortures, etc. Donc moi, c'est ma quatrième rentrée au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Depuis la toute première année, c'était déjà présent avant. On a des élèves qui, chaque année, se relaient pour assurer la présidence de l'antenne jeune d'Amnesty International établissement et qui, chaque année, associent des camarades pour tenir différents événements dans l'établissement.
Vous vouliez nous parler des personnels de l'établissement ?
Oui, on peut juste dire un mot en disant d'abord en remerciant les personnels qui sont partis, et ils sont nombreux. Hein. On a une secrétaire de direction qui est restée avec nous un an, mais qui a vraiment marqué la vie de l'établissement, bien qu'elle ne soit pas restée si longtemps. On a, à l'opposé, notre conseiller principal d'éducation, Stéphane Vuides, qui était dans l'établissement depuis 20 ans et qui a fait un nouveau choix de carrière, et c'est tout à son honneur de repartir en collège. Alors, il n'est pas loin, il est au collège Borelli. On est très, très heureux pour le collège Borelli qui puisse accueillir un personnel de cette qualité-là. On a aussi François Guillemin qui a fait toute sa carrière au lycée Pierre-Gilles de Gênes et qui part en retraite. Voilà, on a eu comme ça un départ de certains nombres de collègues. Céline Brémond, je ne vais pas tous les citer, mais bon, voilà, ils sont nombreux et c'est tous des personnels de valeur, c'est vraiment pour la discipline anglais. Et puis, eh bien, évidemment, on va en accueillir des nouveaux. La pré-rentrée, elle est toujours intéressante aussi à vivre pour ça. Toujours bien d'avoir des nouveaux personnels, d'accueillir des nouvelles personnes, d'accueillir des nouvelles expériences. C'est important aussi dans la vie des établissements de pouvoir se renouveler au contact de nouveaux collègues. Et donc, on attend un peu impatiemment ce moment-là aussi pour à la fois bien accueillir ces personnes-là, qu'on puisse les associer au plus près de nos projets éducatifs et puis qu'on puisse rapidement savoir quelles sont leurs forces pour qu'elles puissent être mises à profit par l'établissement. Et on a déjà pu identifier des collègues arrivants qui vont assurément apporter beaucoup à notre lycée. On a aussi, puisque ça ne touche pas que les enseignants, évidemment, on a des nouveaux personnels dans beaucoup de secteurs de l'établissement. En vie scolaire, Monsieur Vides est remplacé par Mme Gentil, qui est une CPE d'expérience. On a une nouvelle secrétaire, Mme Hassen, qui nous rejoint au secrétariat de direction, qui a déjà pris son poste, puisque la pré-rentrée de l'établissement s'est déjà faite pour les personnels administratifs hier lundi. On a des nouveaux agents qui vont nous rejoindre, y compris des collègues qui pourraient venir d'établissements voisins aussi. On a un collègue qui va venir du lycée agricole de Carmejane, qui va rejoindre l'équipe des agents de maintenance de l'établissement. On va sans doute accueillir un nouveau personnel au service de restauration et d'hébergement, un nouveau chef cuisine pour cette année scolaire. Donc voilà, on touche un petit peu tous les secteurs et puis évidemment des nouveaux enseignants comme chaque année.
Vous êtes proviseur donc dans ce lycée depuis 4 ans. Avant, vous étiez dans un autre département ?
Avant, j'étais dans un autre département, dans l'autre plus beau département de France. Il y en a deux, il y a les Alpes de Haute-Provence et puis l'autre, c'est le voisin, c'est les Hautes-Alpes puisque moi, je suis haut-alpin. J'habite à Guillestre et effectivement, j'étais principal du collège de Guillestre. Et c'est le premier établissement que j'ai rejoint, puisque avant ça, je venais d'une autre académie. Mais j'ai été principal du collège de Guillestre pendant 4 ans, pendant la période Covid notamment. Voilà. Avant qu'on me propose de prendre la direction du lycée Pierre-Gilles-de-Gène et que je rejoigne le lycée Pierre-Gilles-de-Gène il y a 3 ans maintenant, puisque c'est ma 4e rentrée en septembre 2025.
Alors, comment vous appréhendez cette nouvelle année sans stress ?
Alors, le stress, on l'a toujours un petit peu. Et on espère toujours que ce soit plutôt du bon stress que du mauvais, parce que vous savez bien qu'il y en a deux, du distress et du e-stress, comme disent les spécialistes. Non, on est plutôt actuellement dans un bon stress. Ça n'empêche pas d'avoir quelques inquiétudes pour l'établissement, mais c'est notre lot chaque année. Néanmoins, sur la préparation de rentrée, sur l'accueil des élèves, il y a beaucoup, beaucoup de points qui nous rassurent à l'heure actuelle. Par exemple, nous avons, nous, la totalité de nos personnels qui ont été nommés. Et c'est une grande sécurité. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les établissements. C'est toujours difficile, à la fois pour les chefs d'établissement, mais aussi pour les équipes pédagogiques ou éducatives, de se projeter dans une année scolaire sans savoir, sans connaître la totalité des personnes avec lesquelles ils vont travailler. Ce n'est pas le cas à Pierre-Gilles-de-Gênes. Nous avons la totalité des enseignants qui ont pu être nommés. On a aussi la parfaite connaissance du partage des services, c'est-à-dire des heures qu'ils peuvent faire chez nous, mais aussi que quelques professeurs peuvent faire à l'extérieur pour que les emplois du temps puissent être faits de la meilleure façon possible et qu'ils soient les plus justes possibles à la rentrée, qu'on ait le moins de problèmes possible. Donc voilà, on a aussi, encore une fois, là, une rentrée qui s'est faite dès hier pour les personnels administratifs, ce qui nous permet aussi d'anticiper à la fois la pré-rentrée officielle des personnels, notamment d'enseignement et d'éducation, de vendredi, et puis surtout la rentrée des élèves de la semaine prochaine. On a un établissement qui a eu quelques travaux, on pourra en reparler un petit peu après, et voilà, c'est toujours important d'arriver dans un environnement qui lui aussi a su évoluer. Moi je fais confiance aussi à l'ensemble des collègues de l'établissement, quel que soit leur statut, pour que à la fois cette rentrée scolaire dans un premier temps, mais surtout que cette année scolaire se passe aussi bien que celle qui vient de se terminer.
Alors combien d'inscrits
On aura pour cette rentrée environ 600 élèves. Voilà, je ne vais pas vous donner le chiffre exact à l'unité près parce qu'on a encore des inscriptions. On a encore les services de l'inspection académique qui peuvent nous solliciter en nous demandant si on peut inscrire un élève. On a aussi via Parcoursup des demandes complémentaires pour nos BTS. Mais pour donner des chiffres ronds, on va avoir environ 190 élèves en seconde, un petit peu moins de 190 élèves en seconde, 160 élèves en première, en mélangeant les premières générales et les premières technologiques, un petit peu plus d'élèves en terminale, 175, et puis on aura une soixantaine d'étudiants sur les 2 années, en première année de BTS ou en deuxième année de BTS, que ce soit pour le BTS métier de l'eau ou pour le BTS fluide énergie domotique, ce qui fait un total d'environ 600 élèves dans l'établissement.
Et au niveau de l'internat, est toujours, il fonctionne toujours ?
Notre internat fonctionne toujours. C'est même un point qui figure dans notre projet d'établissement et qui est très important pour nous. Dans notre internat, on a deux dimensions qui sont d'ailleurs pas toujours faciles à comprendre à la fois pour les usagers, entre guillemets, pour les parents notamment, mais aussi parfois pour les personnels de l'établissement. On a un internat, globalement, qui peut accueillir les élèves au choix sur 3 nuits, 4 nuits ou 5 nuits. Autrement dit, on peut être dans l'établissement à partir du dimanche soir. On peut aussi ne venir dormir à l'internat que le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir. C'est des possibilités qui sont offertes par le conseil régional. Et cette possibilité-là de moduler le nombre de jours à l'internat est très importante pour son attractivité. Mais c'est surtout une offre éducative en tant que telle. L'internat, je le considère comme un outil qui vraiment favorise la réussite des enfants à plusieurs égards. D'abord, les enfants ont la capacité de travailler ensemble. Et ça, quand on rentre à la maison et qu'on est tout seul devant son bureau, à sa planche, c'est moins facile. Ensuite, il y a des adultes à l'internat. Il y a des locaux à l'internat qui permettent aussi d'avoir des conditions de travail optimisées, y compris en accédant par exemple au CDI une fois par semaine, le CDI ouvert le soir pour les internes, en ayant les assistants d'éducation à proximité, en ayant des professeurs qui viennent faire des cours de soutien le soir, etc. On a aussi, au-delà de la capacité de travail qui est aussi induite par des horaires d'études obligatoires, ce qu'il n'y a pas à la maison, on a aussi une ouverture culturelle à l'internat qui est vraiment extrêmement intéressante. On a aussi, et c'est important de le rappeler, souvent une diminution de la fatigue à l'internat, notamment pour les élèves qui viennent de loin en transport scolaire. Quand on n'a pas besoin de se lever très très tôt le matin et de faire une heure de bus ou trois quarts d'heure de bus et de recommencer le soir, évidemment ça diminue la fatigue et de facto ça améliore la performance scolaire entre guillemets. On est dans de meilleures conditions pour travailler et pour apprendre et ça c'est important. On a accès à de très très nombreuses activités culturelles et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans l'établissement. Donc ça, c'est une offre générale à tous nos internes qui sont de plus en plus nombreux et on aura encore à la rentrée environ 180 internes, ce qui est beaucoup plus qu'il y a 3 ans, puisqu'il y a 3 ans, quand je suis arrivé, il y avait 110 internes à peu près. Donc on a réussi à faire passer l'idée que l'internat pouvait être une plus-value. Et puis parmi nos 180 internes, on a une vingtaine d'élèves qui, eux, sont intégrés à un dispositif particulier qui est labellisé au niveau national, qui s'appelle l'internat d'excellence.
Et qui consiste
à avoir, grâce à deux professeurs qui sont pleinement impliqués sur le dispositif, à avoir des rencontres régulières avec ces professeurs, du soutien scolaire avec ces professeurs, des activités culturelles et scientifiques dédiées à ces élèves-là, pour leur permettre aussi de mieux appréhender leur scolarité et d'être encore plus performant quelque part. Il est important de dire que l'internat d'excellence, les conditions d'entrée ne nécessitent pas qu'on soit excellent à l'école. Alors, je ne veux pas dire que c'est le contraire, ce n'est pas non plus le contraire. L'internat d'excellence, il n'est pas là pour pallier des très grosses difficultés d'élèves. Dans sa philosophie, l'internat d'excellence, il est là pour répondre à des enfants qui ont la capacité à réussir, mais pour lesquels les conditions familiales ne sont pas facilitantes. On peut avoir des parents qui travaillent la nuit, par exemple. On peut avoir des familles nombreuses avec un espace pour travailler qui est pas le meilleur. Et c'est ce type d'élèves-là qu'on accueille à l'internat d'excellence. Des enfants qui viennent de loin et qui ont un projet professionnel. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'être un excellent élève pour être à l'internat d'excellence. On a surtout besoin d'être motivé par le projet de l'internat d'excellence. On a deux moyens de recrutement. Un premier moyen qui est une commission qui étudie des dossiers de demande qui parviennent à l'inspection académique via les collèges aussi, qui sont des demandes donc de parents qui veulent faire rentrer leur enfant en seconde avec un projet de réussite scolaire. Ces dossiers-là sont étudiés et pour ces admissions-là, on privilégie des élèves qui sont boursiers. On privilégie des élèves qui, encore une fois, ont un projet particulier, etc. On va en recevoir 9 cette année via cette commission et chaque année, on a de plus en plus d'élèves qui sollicitent via la commission l'entrée à l'internat d'excellence de Pierre-Gilles de Gênes. Et ça, c'est bien. Ça participe aussi de l'évolution en nombre de nos effectifs à l'internat. Et puis le deuxième moyen, parce qu'on a de quoi accueillir une vingtaine d'élèves sur le dispositif, c'est l'accueil à l'interne ou à la rentrée scolaire. On va réinterroger les élèves pour savoir si certains d'entre eux souhaitent intégrer l'internat d'excellence. Quelques-uns en ont déjà fait la demande à l'inscription, mais on va les réinterroger. Ils vont être à nouveau rencontrés par les deux professeurs en charge du dispositif. Et puis, on constituera un groupe d'une vingtaine d'élèves pour notre internat des sciences et de la nature. Voilà pour l'internat éducatif du lycée Pierre-Gilles Legène.
Évidemment, vous avez aussi une cantine scolaire, enfin un self-service, c'est ça ?
Un restaurant, oui.
Un restaurant scolaire. Carrément.
Oui, oui. En tout cas, c'est l'ambition qu'on veut lui donner. On veut lui donner la prétention de pouvoir s'appeler restaurant. Alors, on a un chef cuisinier là qui ne sera pas dans l'établissement pour l'année scolaire prochaine, qui sera remplacé. Mais on a surtout une ambition pour le restaurant scolaire, dans la mesure où pour tous, le restaurant scolaire, ça doit être aussi un outil de bien-être dans l'établissement et par le bien-être dans l'établissement, un outil de réussite. Il y a déjà des choses qui ont été faites dans l'établissement depuis plusieurs années pour améliorer la qualité du service en général, hein, voilà, pour essayer de travailler sur la variété des repas, pour essayer de travailler sur des repas que les élèves sollicitent de plus en plus. Les repas végétariens, par exemple, hein, voilà, il y a quelques années...
C'est une demande...
C'est une demande des élèves aujourd'hui. Voilà, il y a quelques années, c'était plutôt une demande, je vais dire, de l'administration de faire des repas végétariens. Aujourd'hui, c'est une demande réelle des élèves de manger végétarien ou de manger moins de viande, d'être un peu flexitarien. Bref, là-dessus, moi, je suis persuadé que nos enfants sont en avance sur nous. Et c'est une gageure de leur répondre. Et il faut qu'on y arrive. Donc voilà, il y a toute cette évolution-là qui est en route. Il va falloir qu'on donne un petit coup de boost. Et puis, on va très rapidement, après le début de l'année, on aurait aimé le faire pour la rentrée de septembre, mais on va être obligé de différer un tout petit peu parce que les achats n'ont pas pu se faire pendant l'été. Mais très, très rapidement, on va aussi améliorer la restauration du matin pour les internes. On sait que le petit déjeuner, c'est un repas important. Et comme on a un internat dont on parlait il y a quelques secondes, bien petit déjeuner à l'internat, c'est important. Or, en écoutant les élèves et puis en écoutant les personnels aussi, on s'est rendu compte que le service qu'on proposait le matin, un service assez habituel en fait, hein, avec des machines qui font le café, le chocolat, etc., que ça, on pouvait l'améliorer en revenant à des choses plus simples et qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on fait à la maison. Donc, d'ici quelques semaines, on servira du lait chaud et pas une boisson chocolatée à base d'eau. On servira du lait. Voilà. Si on peut trouver du lait en circuit court, ce sera encore mieux, parce qu'il y a des producteurs locaux qu'on aimerait bien faire travailler. On servira un autre café aussi. On va tâcher de servir du miel de nos montagnes. On va tâcher de servir des confitures locales. Enfin, voilà, on va essayer de se rapprocher d'un petit déjeuner qu'on a plus l'habitude de servir dans nos foyers qu'au restaurant scolaire. Mais voilà, l'objectif, c'est bien celui-là. C'est bien de faire évoluer tout l'aspect restauration le matin, mais aussi le midi et le soir, évidemment, pour que nos enfants puissent trouver dans ces temps-là, la restauration, à la fois un vrai moment agréable, un vrai temps agréable, et puis en même temps, un moment convivial pendant lequel ils puissent discuter, qu'ils puissent oublier un peu... leurs études et toutes les contraintes et tout le stress, et les enseignants aussi d'ailleurs, et les personnels en général, qu'on puisse faire une pause pendant ces temps-là et qu'à l'occasion de cette pause-là, on puisse avoir dans son assiette quelque chose de grande qualité. Et puis, il devait y avoir des travaux faits à la restauration cette année pour aider à ça aussi, et puis aider aussi au recyclage et au tri sélectif, qui actuellement n'est pas bien mis en place dans l'établissement faute de moyens, faute de matériel. Donc la région a prévu un plan de rénovation de la partie restauration important. On n'a pas pu le faire cet été parce que tous les appels d'offres n'avaient pas pu avoir de réponse. Mais c'est quelque chose qui se fera dès mai prochain pour que à la rentrée 2026, on puisse avoir aussi les équipements nécessaires pour conjuguer nos objectifs et la qualité qu'on attend dans l'assiette.
On va venir à cette. Vous allez cette année, donc en novembre, inaugurer le patio Antoinette Chahine. Ça, c'est aussi un endroit que j'ai pu voir donc, lors d'une fête dans votre lycée Pierre-Gilles de Gênes. Un patio donc, qui va être aménagé.
Oui, en fait, comme souvent dans les établissements, on a un peu des lieux morts, des lieux. On ne sait pas trop à quoi ils servent. Alors ce patio-là, il est joli, il est voilà,
pour l'instant, il est au cœur de l'établissement. C'est un carré d'herbe.
Pour le moment, c'est un carré qui mélange un peu l'herbe et le béton, qui est un peu au milieu d'un hall, qui est ouvert sur le ciel, hein, il n'a pas de toit, qui est un peu végétalisé donc, mais dans lequel voilà, il n'y a pas d'entretien régulier. Et puis surtout dans lequel il n'y a pas de passage. Les élèves n'y vont pas, les personnels n'y vont pas. Et quand Antoinette Chahine est venue témoigner de son histoire absolument extraordinaire, il m'est venu assez spontanément à l'idée que ce patio-là pouvait symboliser une autre prison, en fait, que celle qu'elle a pu connaître, puisque ce patio-là, il est entouré de vitres. Il est transparent, il est visible. Encore une fois, on voit le ciel. Néanmoins, c'est une boîte, ça reste une boîte fermée. Et il me semblait qu'on pouvait aménager ce patio-là pour recréer un univers qui, à la fois, qui plaise à Antoinette Chahine, mais qui plaise aussi aux élèves, qui leur donne envie d'aller à l'intérieur pour que finalement, on en fasse surtout pas seulement un lieu de mémoire ou un lieu qui soit un petit peu revendicatif, mais surtout un lieu de vie. Voilà, ça me semblait important.
Alors, comment vous allez l'aménager ?
On a déjà commencé un tout petit peu. On a déjà fait quelques plantations dedans. On va mettre aussi un voile d'ombrage pour que les élèves puissent y aller et puissent s'abriter du soleil. Et puis, on va tâcher de continuer cet aménagement aussi bien minéral que floral, en alliant à la fois la Provence, dans laquelle on vit et qu'il est important de mettre en avant, mais aussi le Liban, qui est le pays d'Antoinette Chahine. Donc on sait qu'on ne plantera pas de cèdre, on n'aurait pas la place, il n'aurait pas la place de pousser. Mais au milieu de nos trois cyprès, hein, qui sont les trois cyprès, c'est emblématique de la Provence, on a des roses du Liban qui ont été plantées aussi. Et puis ensuite, la conformation du patio doit nous permettre de retracer un peu l'image de la Provence et l'image de la Bléone qui est juste à côté, en faisant une mini Bléone, en ayant dans un coin un lit de l'internat qui soit posé là et sur lequel les élèves puissent venir s'asseoir et discuter, pour rappeler aussi malheureusement le lit de la prison d'Antoinette. Et puis voilà, en fait, on veut en faire à la fois un lieu de vie avec quelques tables et chaises pour que les élèves puissent y passer quelques moments, un lieu de discussion, un lieu un peu convivial, et puis en même temps, un lieu d'exposition, parce que la ville de Digne, elle est aussi dynamique dans sa dimension artistique. Et on souhaitait du coup que dans l'établissement, après avoir remis à l'honneur des statues qui n'étaient pas très visibles jusque-là, on continue ce travail-là de présentation de la culture dans l'établissement de façon augmentée. Et que ce patio-là, ce soit aussi un lieu de présentation culturelle pour nos élèves et pour les visiteurs de l'établissement, pour toute la communauté éducative à Pierre-Gilles-de-Gênes. Donc voilà, on dévoilera ça le 21 novembre, normalement. Et puis, même si on a déjà commencé à travailler, on va travailler avec les élèves du CVL et de la MDL pour d'ici le 21 novembre, finir l'aménagement sur leurs idées et sur les nôtres, en agglomérant les meilleurs des deux mondes pour avoir un patio qui définitivement soit habité, j'ai envie de dire. Voilà. Et pas seulement par l'idée de la défense des droits tel que les défend Antoinette Chahine avec beaucoup de courage.
Est-ce que ça fait partie des travaux qui sont en cours ou il y a d'autres choses ? Vous parliez de fresques, de tags.
Oui, alors on a d'abord à cette rentrée, on a grâce au conseil régional qui est propriétaire des locaux et qui nous aide beaucoup, on a pu réaliser malgré tout deux travaux assez majeurs. D'abord, le hall a été refait. On avait du carrelage noir dans le hall qui commençait à fatiguer, qui commençait à se casser, à se craqueler. Et on a remis un sol souple beaucoup plus clair. On a remis des couleurs dans notre hall. Voilà, on a remis à la fois du blanc, mais aussi des couleurs. Donc c'était un renouveau peut-être qui n'était pas si attendu que ça, parce que les gens finissent par s'habituer, mais qui, à mon avis, plaira, parce que du coup, l'entrée dans l'établissement, elle est beaucoup plus lumineuse, et c'est important. Elle est plus joyeuse, quelque part. Et c'est important aussi. Et ça aussi, ça participe du bien-être. Et on continuera à installer comme ça tous les lieux de vie du rez-de-chaussée de l'établissement. Mais en tout cas, ce n'est pas des travaux d'ampleur, mais ça a son importance. Et puis, les deuxièmes travaux qui étaient importants, qui étaient attendus par les élèves et par les enseignants, c'était l'isolation de l'établissement. On est dans une région où il fait beau et on s'en réjouit tous les jours. Néanmoins, quand il fait chaud, c'est toujours difficile de vivre dans les salles de cours. Et la plupart de nos salles de cours connaissaient des problèmes avec les volets roulants qui soit étaient détériorés, soit qui ne fonctionnaient plus du tout, mais qui en tout cas ne permettaient pas d'abriter les salles du soleil suffisamment. Et depuis mon arrivée, on a beaucoup travaillé avec le conseil régional pour pouvoir rénover les volets roulants de l'établissement. C'était une attente forte hein, des enseignants et des élèves. Aussi pour des questions pédagogiques, hein, quand on a du mal à occulter la lumière et qu'on ne voit pas bien ce qui se passe au tableau avec le vidéoprojecteur, c'est toujours compliqué. Et cette année, on aura réussi à finalement équiper l'ensemble des salles qui devaient l'être dans un premier temps de ces volets roulants. Avec une petite touche écologique qui est chère à Pierre-Gilles Degène, puisque c'est des panneaux qui marchent au photovoltaïque aussi, enfin c'est des volets roulants qui marchent au photovoltaïque, une commande à l'intérieur des salles, et donc une capacité retrouvée à la rentrée de se mettre un peu plus dans la pénombre et de s'abriter à la fois de la chaleur et de la lumière pour travailler dans des meilleures conditions. Donc voilà pour les travaux qui ont pu être faits cet été, entre autres, hein, parce qu'on a aussi des travaux qui sont moins visibles, mais qui concernent la chaufferie. Voilà. Un établissement, ça vit tout le temps, donc y compris cet été. Et puis effectivement, on aura un nouvel événement culturel avant Antoinette Chahine et l'inauguration du patio le 21 novembre, qui se déroulera le 6 octobre. Et qui est porté à travers un événement international qui est l'année internationale de la physique quantique. Et à cette occasion-là, de par l'histoire du lycée Pierre-Gilles Degène, qui a longtemps été un établissement scientifique, et exclusivement scientifique, même s'il ne l'est plus aujourd'hui, Aix-Marseille Université, des chercheurs d'Aix-Marseille Université se sont tournés vers nous pour nous associer à un projet qui mettent à la fois en avant, évidemment, la physique quantique, puisque c'est l'objet de cet événement, mais aussi la figure de Pierre-Gilles Degène. Et voilà, l'événement se déroulera en deux temps. Un premier temps dans l'établissement, le 6 octobre, en début d'après-midi, avec à la fois des conférences données par des chercheurs de l'université à nos élèves pour une approche de la physique quantique, une vulgarisation, on pourrait dire, de la physique quantique auprès de nos enfants et de nos personnels. Et en même temps, un artiste international, C215, qui est un graffeur qui réalise des fresques au pochoir dans toutes les plus grandes villes du monde, hein, New York, Rio de Janeiro, je crois. Enfin, c'est vraiment un artiste mondialement connu qui nous fera l'honneur de venir au lycée Pierre-Gilles Degène pour, je vais dire, taguer la figure de Pierre-Gilles Degène à l'entrée de l'établissement, alors à l'entrée des bâtiments de l'établissement, pas à l'entrée extérieure, mais juste à côté de la porte d'entrée principale qui donne dans le hall A qu'on vient de rénover. Il y a un très grand acte de Pierre-Gilles Degène qui sera réalisé dans l'après-midi par C215 et qui restera à demeure. Les professeurs se chargeant de réaliser en parallèle un cartel géant pour rappeler les événements essentiels de la vie de Pierre-Gilles Degène. Dans le lycée qui porte son nom et qu'il a visité plusieurs fois d'ailleurs.
Comment on fait pour faire venir un tel artiste dans une petite ville comme Digne-les-Bains ?
Alors on s'attache la sympathie des chercheurs d'Aix-Marseille Université, puisque c'est eux qui m'ont fait cette proposition-là. On s'est empressé de s'en emparer, évidemment. Ensuite, il y a un montage financier à avoir. Donc on a fait une demande au conseil régional pour savoir s'il pouvait un petit peu nous aider. Mais dans tous les cas, comme on souhaitait le faire, on a déjà fait un prélèvement sur les fonds de roulement de l'établissement pour pouvoir honorer le paiement de cette prestation-là, qui sera d'ailleurs pas du tout facturée au prix où ça peut être facturé à une grande ville du monde. Et tant mieux, on s'en réjouit. Et puis après, on y associe aussi la ville au projet, puisque une fois que ces événements se seront déroulés dans notre établissement en début d'après-midi, le soir, on donnera une conférence sur la physique quantique au théâtre René Char de Digne-les-Bains. Et pour ça, je remercie vraiment Madame le maire de Digne et ses équipes de nous aider à porter ce projet. Au théâtre René Char, on aura donc là aussi des professeurs d'Aix-Marseille Université pour faire de la vulgarisation sur la physique quantique. Et on précédera d'abord les questions-réponses qui seront faites, l'échange qui sera fait avec les chercheurs et ensuite avec le public, on précédera ce temps-là d'une présentation d'un film sur Pierre-Gilles de Gênes, d'un court documentaire sur Pierre-Gilles de Gênes que j'ai obtenu de sa famille, et ensuite d'un court documentaire de vulgarisation de la physique quantique qu'on trouve sur l'UMNI, la plateforme en particulier utilisée par l'Éducation nationale, des connaissances à laquelle on s'attache.
Cette projection, ce sera quand, le film?
Alors ça, c'est le 6 octobre au soir. Ce sera le lundi 6 octobre au soir, normalement, au Théâtre René Char. Donc, deux films projetés, donc en tout, trois petits quarts d'heure. Ensuite, une intervention des chercheurs d'Aix-Marseille Université, probablement sous la forme d'un échange en questions-réponses. Et puis un échange avec le public, puisque l'objectif, c'est que les gens qui seront présents ce soir-là, et qui seront nombreux, on l'espère, puissent poser toutes les questions qu'ils veulent sur la physique quantique, dont on ignore souvent beaucoup de choses quand on n'est pas un spécialiste.
Et bien sûr, la présence peut-être de fréquences Mistral.
Évidemment, on sera très très heureux de vous accueillir, comme on vous avait accueilli pour l'événement dont on parlait tout à l'heure, le digne d'éloquence. Notre rencontre d'éloquence entre le lycée Alexandra Lavinel et le lycée Pierre-Gilles de Gênes, qui avait eu lieu au Palais des Congrès l'année dernière au mois de mai. Ouais.
Oui, c'est un sacré concours d'éloquence, donc qui devrait avoir lieu peut-être tous les deux ans.
En fait, on sait que ces organisations-là sont très très lourdes à porter, et le risque, c'est que la motivation s'étiole trop vite. Et comme c'est des événements d'envergure, mais c'est aussi des événements qu'on estime être de très très grande qualité, on souhaite les pérenniser le plus longtemps possible. Un des moyens d'y parvenir, ça peut être de tenir ces événements-là tous les deux ans seulement. C'est ce qu'on fait, nous, pour le Festival Pierre-Gilles de Gênes, parce que c'est une organisation tellement lourde qu'on ne serait pas capable de la tenir tous les ans. On s'épuiserait. Donc moi, j'avais évoqué cette possibilité-là. Néanmoins, on n'est pas du tout fermé au fait de le faire chaque année. C'est vrai que le lycée Pierre-Gilles de Gênes en a porté la plupart de l'organisation cette année, mais non pas parce que ADN ne voulait pas le faire, au contraire. Hein. Ils étaient très, 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 très à l'écoute et beaucoup à notre soutien. On l'a vraiment co-organisé. Néanmoins, le lycée Pierre-Gilles de Gênes avait déjà l'expérience du concours d'éloquence et c'était précieux. Donc ça nous a permis de gagner du temps et un petit peu de facilité d'en prendre la plupart des éléments en charge. Néanmoins, je suis absolument convaincu qu'on va pouvoir mieux se répartir la tâche les années à venir. Et si on doit refaire un concours d'éloquence en 2025-2026, on sera heureux de le refaire, au contraire, parce que c'est un événement d'abord qui plaît à nos élèves. Hein,
pour oui, commencer. J'allais vous demander la motivation, comment ils en sont, parce qu'ils ont tous été excellents, même si ils n'ont pas tous été récompensés, mais comment ils en sont sortis ils ont dû en parler aussi après.
Alors, d'abord, ils en parlent beaucoup entre eux, après, parce que les élèves sont nombreux à venir les voir. Il y avait beaucoup, beaucoup de nos élèves dans le public. Donc, ils en parlent déjà beaucoup entre eux. Ensuite, on ne choisit pas les élèves au départ parce qu'ils sont bons. On les choisit d'abord parce qu'ils sont motivés, c'est vrai, mais on choisit aussi beaucoup d'élèves qui ne sont pas très à l'aise à l'oral. Et pour ces élèves-là, c'est une vraie révolution de participer à cet exercice, parce qu'on sait bien qu'ils n'agiront plus du tout de la même façon après qu'ils ne pouvaient le faire avant. Ça les transforme vraiment en profondeur, je pense. C'est aussi une façon de réhabiliter pour beaucoup le sens du travail, le sens de la répétition. Bref, je crois qu'ils y gagnent énormément. Et la première chose qui en témoigne, c'est qu'ils viennent nous le dire et ils viennent nous en remercier d'ailleurs. Hein. Et moi, je les en remercie d'y participer aussi et d'être aussi brillants. Je suis certain aussi que les parents leur renvoient cette image-là. Et c'est important que les familles puissent voir leurs enfants à l'œuvre, puissent leur dire à quel point ils sont bons, puissent être fiers d'eux. Et on est aussi heureux de le mettre en œuvre pour ça. Donc oui, pour les enfants, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas, mais on sait que quelques-uns l'ont utilisé par le passé, puisque nous, à Pierre-Gilles de Gênes, on l'organise depuis plusieurs années. Hein, mais ils ont pu utiliser leur talent dans les entretiens pour entrer dans des écoles sélectives dans leur cursus universitaire. Ils pourront peut-être l'utiliser pour leur métier, s'ils souhaitent faire des métiers de communication en général. Mais en tout cas, les enfants qui viennent, même s'ils ne sont pas qualifiés pour la dernière phase devant public, et quand bien même ils ne seraient pas récompensés, tous les élèves qui s'inscrivent à la préparation dans ces rencontres d'éloquence en sortent gagnants. Ça, c'est une certitude.
Et puis ce projet d'interlycée, de mélanger les lycéens, lycéennes de Digne, c'est aussi important pour eux qui se rencontrent et qui travaillent ensemble ?
Ah, c'est essentiel. C'était vraiment une volonté forte. Jusque-là, le lycée Pierre-Gilles de Gênes organisait le concours d'éloquence avec et dans le cadre d'un concours académique proposé par le Rotary Club. Et ce concours-là est vraiment extraordinaire. Si on a souhaité s'en détacher, c'était simplement parce que la thématique de ce concours est un petit peu la même chaque année, et ça se comprend, hein, voilà, c'est toujours d'autres élèves qui s'inscrivent a priori d'une année sur l'autre. Mais nous, on voulait changer un petit peu, on voulait changer un peu de thématique. Ce sont les professeurs qui ont eu l'idée de s'associer, et on s'en réjouit vraiment parce que on travaille avec ma collègue Clémentine Dalle du lycée Alexandra David-Nel et avec Valérie Aucomte, la proviseure de Baudrocha. On travaille vraiment en étroite collaboration les uns avec les autres. Mais le fait que la demande vienne des enseignants était aussi un élément fort qui nous a convaincus qu'il fallait qu'on les suive et qu'on les aide. Et effectivement, qu'on fasse travailler en collaboration les établissements de la ville de Digne, c'est important parce que personne ne peut nier la réalité de l'histoire dans la ville. On sait que les deux établissements ont pu être en rivalité, qu'ils avaient des caractéristiques qui étaient extrêmement différentes et qui pouvaient expliquer ces rivalités-là. Mais aujourd'hui, je crois que ce temps-là, il est définitivement révolu. Il faut qu'on passe outre ça. Il n'y a pas un établissement scientifique qui serait en plus réputé meilleur qu'un autre établissement qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques. Non, non. Il y a deux beaux lycées à Digne, plus un troisième lycée professionnel qui est aussi un très bel établissement avec des formations qui sont très très intéressantes. Et ces trois établissements-là, ils méritent chacun de vivre et ils méritent chacun de travailler les uns avec les autres. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a aussi voulu construire la rencontre Digne d'éloquence, ne pas en faire un concours justement, mais en faire une rencontre. On espère que Baudrocha pourra s'associer à nous l'année prochaine, parce que cette année, ils ont manqué un petit peu de temps. Mais en tout cas, ils étaient prêts à nous rejoindre. On espère que ce sera encore possible pour eux. On sera heureux de les accueillir. Effectivement, ça participe, cette action-là et d'autres encore, à la réunion qu'on souhaite avoir des élèves, des professeurs, des personnels en général, des établissements dinois, pour que cette collaboration-là, elle puisse profiter à nos enfants, en fait. Le seul objectif, c'est celui-là. Pour cette année scolaire, on va d'ailleurs continuer à travailler sur un autre projet qui serait de mettre des options en commun entre les deux lycées. Par exemple, on a une option qui est très très intéressante, ouverte à ADN, qui est l'option prépa santé, qui se fait le mercredi après-midi. Si on pouvait réserver quelques places de cette option à des élèves de Pierre-Gilles de Gênes, pour qu'ils puissent la suivre en même temps que les élèves d'ADN, ce serait très très intéressant. Et on a déjà pu en parler avec ADN. Et nous, en parallèle, pour offrir une réciprocité, on souhaite aussi se pencher sur l'ouverture d'options qui auraient les mêmes caractéristiques, pas les mêmes objectifs évidemment, mais les mêmes caractéristiques, que ce soit des options prépa scientifiques, que ce soit des options pour des classes préparatoires aux écoles de commerce ou pour Sciences Po, par exemple. On sait que ça intéressera autant nos élèves que les élèves d'ADN. Et si on peut aussi mettre en commun nos moyens et nos expertises pour qu'au final, les élèves de Digne puissent tous en profiter à part égale, eh ben, je pense qu'on aura fait un pas de plus dans le rapprochement des établissements. Et puis surtout, on aura travaillé encore mieux pour la réussite de nos enfants. Et c'est le principal.
Et le sport et la culture, c'est aussi, ce sont aussi des façons de créer du lien. Est-ce que dans le cadre du lycée Pierre-Gilles de Gênes, il y a des ateliers de théâtre, de musique ?
Oui, alors effectivement, la culture, c'est un objet aujourd'hui qui est essentiel dans la vie des établissements. D'ailleurs, lorsque la notion de l'utilisation du pass culture a pu être évoquée, il y a quelques mois, on a bien senti que c'était aujourd'hui ce pass culture un élément essentiel dans la proposition culturelle que chaque établissement peut faire. Effectivement, Pierre-Gilles Degène travaille depuis plusieurs années pour avoir un parcours artistique et culturel, comme on dit, un parcours artistique et culturel qui soit très étoffé, qui soit aussi construit sur des principes d'égalité, avec une programmation plus horizontale, j'appelle ça une programmation horizontale, c'est-à-dire une programmation qui s'adresse plutôt à des niveaux qu'à des classes. Voilà, quand c'est bien d'aller voir un spectacle pour une classe de seconde, c'est bien pour toutes les classes de seconde, en fait. Donc on essaye d'avoir une programmation de plus en plus horizontale, et le festival en particulier nous le permet, mais pas seulement. Une programmation qui soit aussi variée, qui concerne tous les arts du spectacle, et on y arrive de mieux en mieux. On est beaucoup aidé par les référents culture dans nos établissements, et j'ai pu avoir la chance de travailler avec deux personnels de l'établissement qui ont chacun œuvré très très fortement à cette nouvelle ambition, et surtout à l'atteinte des objectifs qu'on s'était donnés. Il faut les en féliciter en premier lieu, et puis féliciter aussi l'ensemble des enseignants qui travaillent pour ça. Et effectivement, dans ce parcours artistique et culturel, on a des choses qui sont proposées par la vie scolaire pour ouvrir des salles de musique et faire en sorte qu'on ait des groupes de musique qui soient au lycée et qui participent aux différents concerts et aux différentes animations de la ville aussi, comme à ADN. On a un club théâtre qui d'ailleurs l'année dernière s'était produit en ouverture de la rencontre digne d'éloquence, qui avait encore fait une prestation à l'ouverture du festival, qui est animé par un de nos professeurs de technologie.
Le sujet, pardon, de cette pièce,
c'était le numérique.
C'était le numérique, ouais, c'était le numérique. Et ça a été écrit par eux-mêmes, non ?
Exactement, exactement. C'était une pièce qui avait été entièrement réalisée de A à Z par l'équipe des élèves et du professeur qui les accompagne, et des professeurs, parce que je sais qu'ils ont été quelques-uns à intervenir, pour donner un spectacle absolument extraordinaire, avec des enfants qui là aussi ont pu montrer toute la valeur de leur engagement dans un projet. C'était absolument exceptionnel. Donc voilà, le club théâtre va renaître cette année avec probablement de nouveaux élèves, et pas seulement. On a aussi des clubs ou des actions qui sont relatives à l'écologie et au développement durable, parce que c'est un axe fort chez nous. Et puis au niveau du sport, on a une option EPS dans l'établissement. Au-delà de ça, une association sportive qui est affiliée à l'UNSS, mais une association sportive qui offre aux élèves le midi comme le soir, en particulier le soir, qui offre des activités pour qu'ils puissent trouver les moyens aussi d'apprendre autrement, je vais le dire comme ça, et parfois même de ne pas apprendre, de simplement se détendre et de pratiquer l'activité, parce que on sait que c'est absolument essentiel dans sa vie d'avoir de l'exercice physique suffisamment. On va s'attacher cette année les services du club de rugby de Digne, avec lequel on a construit un partenariat, et avec la région pour laquelle on a eu une subvention, pour que le club de rugby puisse intervenir à midi dans la semaine, et pas pour faire du rugby d'ailleurs, hein, pour d'abord proposer de l'activité physique aux enfants qui seront volontaires pour ça. Ils seront là le jeudi midi. On a aussi une action un peu phare avec nos BTS, avec nos étudiants de BTS, puisque dans le référentiel des BTS, il n'y a plus d'éducation physique et sportive. Ils n'ont plus d'EPS dans les programmes. Mais au lycée Pierre-Gilles Degène, on s'attache à ce que nos élèves gardent une activité physique et sportive, et on l'organise. Qu'ils puissent avoir accès à un minimum à la fois de découverte de nouvelles activités. Ça leur permet aussi de côtoyer des associations locales et éventuellement de s'y inscrire par la suite. Mais surtout, ça les met en activité, ça leur permet de travailler autrement en commun, ensemble, ça crée de la cohésion dans le groupe. Et voilà, l'activité physique, c'est un projet un petit peu particulier. On appelle ça sport santé pour nous dans les BTS. Mais voilà, c'est un événement qu'on... Enfin, c'est pas un événement, c'est un axe d'apprentissage pour nos étudiants qu'on souhaite vraiment conserver avec l'aide de toute l'équipe qui travaille sur nos BTS, pour qu'ils puissent avoir un minimum d'activité physique et sportive dans l'année, qu'ils perdent pas le lien avec ça, parce qu'on sait que dans leur vie professionnelle future, aussi bien que personnelle, ça restera quelque chose d'important.
J'ai envie de vous demander la mixité par rapport...
Oui.
Est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles?
Alors, dans l'établissement et nos enseignements secondaires, seconde, première, terminale, on est à peu près à parité entre les filles et les garçons. On a un sujet parce que même si aujourd'hui le lycée Pierre-Gilles de Gênes est un établissement pleinement polyvalent, on sait qu'on a quand même une majorité de nos élèves qui prennent des spécialités scientifiques en baccalauréat général. Il y a toujours la question de savoir si les filles accèdent autant qu'elles le pourraient à l'enseignement scientifique. C'est d'ailleurs un des axes de la lettre de rentrée que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale ont reçu. C'est un axe sur lequel, effectivement, on réfléchit depuis longtemps, de faire en sorte que, finalement, les filles puissent avoir la même motivation que les garçons à suivre des études scientifiques, qu'elles soient pleinement convaincues qu'elles en sont absolument capables. Parfois, elles en sont même plus capables que les garçons. Il faut qu'elles le fassent, voilà, si elles le souhaitent. Il ne faut pas du tout qu'elles se censurent elles-mêmes ou que nous-mêmes les censurions pour de mauvaises raisons. Je ne crois pas que les professeurs aujourd'hui censurent les élèves filles de suivre des études scientifiques. Je pense même que c'est le contraire. On les encourage fortement. Mais en tout cas, il y a un vrai travail sur l'égalité filles-garçons qu'il faut continuer à mener. Ça fait partie de l'éducation de nos enfants et c'est une des missions de l'éducation nationale. Voilà, on est un service public d'éducation et pas seulement d'enseignement. Donc on continue à travailler sur ces sujets-là avec là aussi une professeure qui est très impliquée sur le sujet et qui nous aide à piloter l'ensemble du parcours d'égalité filles-garçons. Et puis par contre en BTS, c'est vrai que on a quand même des BTS qui sont beaucoup plus masculins que féminins, pas dans leurs caractéristiques, parce que les filles pourraient faire ces métiers-là aussi bien que les garçons, mais à cause des représentations qu'on peut en avoir. Voilà, fluide d'énergie domotique, il y a très peu de filles qui viennent chez nous, et pourtant, quand elles y viennent, elles réussissent, et c'est la même chose en métier de l'eau. Toutes les filles qui sont présentes dans nos formations réussissent excellemment bien. On a d'ailleurs eu d'excellents résultats au BTS cette année. Grâce aussi aux filles qui sont avec nous, on aimerait en avoir plus. Et il va falloir qu'on trouve les moyens de faire la pub auprès d'elles, entre guillemets, de nos formations, pour les inciter à venir s'inscrire.
Jean-Raphaël Niquez, on est proche de la fin de l'émission, mais on a encore quelques minutes pour parler peut-être de l'historique du lycée Pierre-Gilles de Gênes, dont vous êtes proviseur, donc depuis...
Ouais.
Ça va être votre quatrième année cette année.
C'est ça. C'est un lycée qui a été construit à la fin des années 80, avec un projet, je l'ai dit, et puis les Dinois le savent, qui était de construire un établissement scientifique. Donc pendant très très longtemps, juste de la fin des années 80, 87, jusqu'en 2019, la réforme du baccalauréat, le lycée Pierre-Gilles de Gênes n'avait qu'un seul bac, le bac S, le bac scientifique. Ces deux baccalauréats technologiques sont des baccalauréats technologiques scientifiques, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, et puis sciences et technologies de laboratoire. Et puis nos BTS sont aussi des BTS à dominante scientifique. Donc le lycée Pierre-Gilles de Gênes a jusqu'en 2019, a travaillé à cultiver cette image d'établissement scientifique, d'établissement exigeant, de par ses études scientifiques, qui le sont, c'est vrai. Et puis depuis la réforme du baccalauréat et le système du nouveau baccalauréat qui prône des spécialités, et puis surtout le fait que les établissements désormais soit sectorisé, ce qui n'était pas le cas avant. Autrement dit, que les élèves de n'importe quel secteur puissent venir faire leurs études à ADN, à Pierre-Gilles de Gênes, dans les lycées de Manosque ou au lycée de Polarène à Sisteron ou de Barcelonnette, pour ceux de notre département. Cette sectorisation-là, elle nous a obligés à prendre en compte tous les profils et plus seulement des profils scientifiques. Ça a été assurément une révolution à Pierre-Gilles de Gênes, parce qu'il a fallu changer la façon qu'on avait de transmettre les connaissances. Ça a été une révolution pédagogique. Ça a été aussi une révolution dans l'accueil de nos élèves, puisqu'on est passé d'un internat qui était plein, puisque les élèves venaient de partout dans l'académie, à un internat qui était beaucoup moins rempli. Il y a 300 places à l'internat. Quand je suis arrivé il y a 3 ans maintenant, il n'y en avait plus que 110. Donc ça a bouleversé beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut dire que l'ensemble des personnels de l'établissement, au premier rang desquels les enseignants, ont su relever ce défi qui n'était pas facile à relever, qui était même très difficile, à mon sens. Mais ils l'ont relevé, ils continuent à le relever encore aujourd'hui, en conjuguant à la fois l'exigence qu'on doit avoir pour nos enfants, qu'on a à titre personnel. Voilà, moi, j'ai 4 enfants, dont certains sont internes. J'ai de l'exigence avec eux, et je crois que c'est nécessaire. Et puis, en même temps, une certaine bienveillance, il faut en avoir une, pour les accompagner, pour vraiment leur donner envie d'apprendre, pour leur donner envie de performer, pour leur donner envie de suivre des études supérieures, puisqu'on rentre au lycée pour ça, hein, pas pour autre chose. C'est tout ça qu'il a fallu changer dans la façon qu'on avait d'appréhender les élèves, et on est en train de le faire. La preuve en est, je disais tout à l'heure qu'on avait des résultats au baccalauréat excellents. Si on avait eu des résultats au baccalauréat aussi excellents en ayant eu une diminution du nombre de mentions au baccalauréat, on aurait pu se dire que finalement nos résultats étaient sûrement dus à peut-être une baisse de l'exigence qu'on avait avec nos élèves. Or non, on a toujours autant d'élèves qui obtiennent une mention au baccalauréat. C'est bien la preuve qu'on est capable d'avoir des excellents résultats, mais que ces excellents résultats touchent bien tous les élèves et surtout ne pénalisent pas les meilleurs. Non, ceux qui sont bons élèves restent de très bons élèves et peut-être même gagnent encore plus à côtoyer des élèves qui sont un peu plus en difficulté. Mais en tout cas, on réussit à les porter. Donc l'année 2019 a été un premier tournant dans la vie de l'établissement. Et puis peut-être que l'année 2026 sera un autre tournant parce qu'on espère ouvrir une section d'enseignement professionnel à Pierre-Gilles de Gênes pour deux raisons. D'abord parce que le recrutement en BTS métier de l'eau souffre d'un manque de candidats. Et on sait qu'il y a des baccalauréats professionnels qui préparent au BTS métier de l'eau, mais qui n'étaient pas présents sur le territoire académique, même pas de la grande académie, Nice et Marseille réunis. Et on a proposé au rectorat l'ouverture de cette formation-là. Donc c'est les bacs pro, alors ça s'appelait GPPE avant, ça s'appelle MEPE maintenant. Pour faire court, c'est la protection de l'environnement et du tri sélectif, etc. Quand on a proposé ce projet au rectorat, le but du jeu, ce n'était pas de l'ouvrir à Pierre-Gilles de Gênes, c'était d'y associer des lycées professionnels, plutôt des départements alpins, et tant qu'à faire des Alpes de Haute-Provence, pour ouvrir cette formation. Soit cette formation-là ne correspond pas aux caractéristiques des établissements, soit les établissements n'ont pas la place pour l'accueillir. Donc rapidement, on s'est résolu à l'ouvrir chez nous et à demander au rectorat si on pouvait l'ouvrir chez nous en créant une section d'enseignement professionnel. Donc on est toujours en discussion avec le rectorat, mais on peut dire que le projet avance bien. Le projet, il est à notre sens abouti, et je crois que nos interlocuteurs de l'administration, aussi bien du rectorat que de la région, en sont convaincus. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres écluses à passer avant d'arriver au port. On va continuer à travailler là-dessus. On aura une réponse probablement début janvier, peut-être avant, mais début janvier sur l'ouverture d'un baccalauréat professionnel et d'un CAP au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et ça aussi, ça sera un autre tournant que prendra le lycée en devenant un lycée polyvalent qui propose des enseignements à la fois généraux, technologiques et professionnels, donc qui accueille toute la variété des élèves qu'on peut connaître dans le secondaire et dans les lycées en France. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois sera un nouvel enjeu pour nous, parce que le deuxième enjeu, c'est aussi de regagner des élèves, c'est de ne pas perdre d'élèves, parce qu'on sait que la démographie ne nous incite pas à être confiants de ce point de vue-là. Je parlais au début de l'entretien de quelques inquiétudes, et la démographie, c'en est une d'inquiétude pour nous. Donc ça nous permettra de compenser un peu la baisse d'élèves. Et puis en même temps, ça devrait nous permettre de mettre en avant les qualités de notre établissement pour pouvoir accompagner au mieux des élèves dans un projet professionnel. Et je suis convaincu qu'on a on a beaucoup d'atouts et beaucoup de forces pour la réussite de ces enfants-là. Mais ça va être un nouveau défi. On est déjà dessus. Les enseignants sont évidemment au courant et pour beaucoup partie prenante. Mais il va falloir continuer. On a 3 années devant nous, je vais dire, pour finaliser ce projet-là, voir les résultats de la première cohorte dans un peu plus de 3 ans maintenant, mais voir ce que ça donne. Mais je suis persuadé qu'on va... Là aussi, on va réussir ce pari-là. J'en suis convaincu.
Jean-Raphaël Niquez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026 ?
On peut souhaiter aux enfants qui seront au lycée Pierre-Gilles de Gênes d'y être heureux. On peut souhaiter à nos personnels d'y trouver aussi tout le bien-être professionnel qui est nécessaire pour que l'envie d'apprendre puisse être transmise aux enfants. On peut nous souhaiter d'avoir toujours autant de projets et toujours autant de, de personnes dans l'établissement pour les accompagner. Ils sont nombreux à nous aider à ça. Ça fait plaisir de travailler dans un établissement dans lequel les équipes ont du répondant, vous suivent et vous aident. Et puis, surtout, on peut souhaiter la même réussite l'année prochaine à tous nos élèves que celle de cette année, aussi bien dans les résultats des examens que dans leur orientation. Voilà, on est là pour ça, hein. On est là pour les faire réussir, nos enfants.
Je ne vais pas parler de dépression au niveau des personnels enseignants, parce qu'on voit qu'en France, il y a beaucoup d'alarmes tirées. Ça devient difficile d'être enseignant en sécurité de nos jours. Ce n'est pas quelque chose que les enseignants de Pierre-Gilles de Gênes connaissent.
Alors, il faudra interroger les enseignants de Pierre-Gilles de Gênes pour savoir s'ils sont en dépression ou pas en dépression. Non, je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que je crois que ce n'est pas propre à l'éducation nationale. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en ce moment, des questionnements, on en a beaucoup. Et évidemment, quand on se questionne, quand on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer dans un avenir plus ou moins lointain, évidemment que ça peut inquiéter. Donc les enseignants, comme tous les personnels de l'établissement, y compris les personnels de direction de l'établissement, on peut avoir des sujets de questionnement, des sujets d'inquiétude parfois. Mais encore une fois, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, et ça va peut-être paraître un peu plan-plan. Mais c'est vrai que quand le jour de la rentrée, on voit arriver nos enfants, ces problématiques-là, elles sont plus majeures. Voilà. Alors on les garde dans un coin de la tête, on essaye d'y répondre, on essaye de résoudre nos difficultés, on en a, on fait face. Mais en tout cas, c'est aussi nos élèves qui nous donnent la force de continuer à avancer, ça c'est une certitude. Donc tant qu'on aura des élèves avec nous, on n'aura pas de raison de s'arrêter. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je perçois mon métier. Tant que les enfants seront là et nous donneront envie d'avancer, ce qu'ils font tous les jours, bon, y a pas de raison qu'on recule. Hein. Donc on ne reculera pas, on continuera.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et bonne rentrée scolaire.
Merci.
Et au plaisir de venir faire d'autres interventions au sein de votre lycée.
On sera toujours très heureux de venir à votre rencontre et à celle de vos auditeurs. Merci à vous.
Au revoir.
Bien parti faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière, découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Libre, vivre, libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star. Des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan. Cracher ses temps de lave et de soleil et de joie de vivre. Libre sur le chemin qui vibre, ivre sous tes pas. La joie de vivre. Libre, qui te délivre et te mène sur ta voie. Tant que je sentirai vibrer la terre sous mes talons, le vent du large au fond de mes poumons, s'élancer dans l'univers, mes pensées qui décollent, et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre, libre. libre sur le chemin qui vibre, ivre sous mes pas, sous mes pas, la joie de vivre m'inspire, la foi qui je serais bien parti faire le tour du monde avec toi.